Et là-dessus, je vous invite à ouvrir votre Bible dans la première épître de Pierre, puisque quelqu'un qui a connu des jours d'orage, littéralement, il était avec Jésus dans la barque, au milieu de la mer de Galilée, c'est quelqu'un qui a marché sur l'eau, c'est quelqu'un qui a connu des jours de tristesse lorsqu'il a trahi Jésus, il s'agit de Pierre. Mais c'est également quelqu'un qui a connu des jours merveilleux de restauration, de service pour le Seigneur. Et dans la première épître de Pierre, chapitre 4, nous allons voir quelques versets dans ce chapitre. Pierre, dans cette épître, est en train de traiter cette idée de souffrance, de persécution. Puisque les chrétiens du premier siècle étaient persécutés, servaient le Seigneur, annonçaient la bonne nouvelle, et puis on les persécutait. Ils avaient des difficultés, ils avaient la souffrance, se posaient apparemment plein de questions, et Pierre leur écrit donc cette première épître. Et cela nous est d'un grand encouragement parce que aujourd'hui, si nous connaissons Christ comme notre Sauveur, nous travaillons pour le Seigneur, nous rencontrons des difficultés également, n'est-ce pas? Il y a de l'opposition. J'hésite à parler de persécution dans notre pays, parce que ici en France, nous jouissons d'une grande liberté, mais dans d'autres pays, c'est une réalité. Vous avez peut-être entendu parler de ces églises en Algérie qui ont été fermées par le gouvernement. Il y a des églises en Chine, des églises il existe des églises en Corée du Nord. Je ne sais pas si vous le saviez, il y a des chrétiens là-bas. Mais dans d'autres pays également, soit communistes, musulmans, autres, les chrétiens sont persécutés. Et que ce soit pour eux, que ce soit pour nous, Dieu nous donne dans sa parole ses encouragements, ses enseignements pour nous aider à tenir ferme. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans ces quelques premiers versets. Alors, nous allons voir des versets 3 jusqu'au verset 7. Alors, permettez-moi de lire ces versets. Donc, premier épître de Pierre, chapitre 4, verset 3 jusqu'au verset 7. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans le dérèglement, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts, car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Prions justement pour remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous sommes devant toi, tu nous vois, chacun, rien n'est caché à tes yeux, et nous demandons à ce que ta parole puisse pénétrer dans notre cœur, qu'à travers cette parole puissante, tu nous montres ce qui doit changer dans notre vie, que par ta puissance, tu nous aides à le faire, que tu nous donnes ton intelligence, ta puissance, et que ainsi tu sois glorifié à travers ce qui sera fait et dit ici. En ton nom. Amen. Pierre, dans ces versets, reprend un peu l'historique de ces chrétiens auxquels il écrivait. Et au verset 3, il va expliquer que ces chrétiens auxquels il écrivait avaient une vie avant. Et cela est le cas pour chacun de nous. Nous avions une vie avant. Verset 3, regardez, c'est assez en effet d'avoir dans le temps passé. Ce n'est pas le présent. Non, 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 c'est du passé. Dans ce temps passé, d'avoir accompli la volonté des païens. Alors, c'est le mot nation. Donc, ici, Pierre fait référence à ces personnes qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur sauveur. Ce n'est pas simplement les non-juifs, Alors Pierre, lui, juif, il écrivait principalement à des juifs, mais pas exclusivement. Et il leur dit, eh ben, il y avait ces personnes qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas encore accepté Christ comme leur sauveur. Et il dit, vous, qui êtes maintenant chrétien, si vous l'êtes, vous étiez comme eux. Paul, il va s'exprimer de cette manière, nous étions aussi de leur nombre. Et tout de suite, nous voyons que Pierre montre, nous ne sommes pas supérieurs aux personnes qui ne connaissent pas Dieu. Nous ne sommes pas supérieurs en nous-mêmes. Nous ne sommes pas meilleurs en nous-mêmes que ces personnes, puisque de toutes les façons, nous étions comme eux. Et comme Paul va le dire, comment pouvons-nous nous glorifier de cela? Nous ne pouvons pas. Toute la gloire revient à Dieu. Mais Pierre dit, bah, dans le temps passé, avant de connaître Christ, vous avez accompli la volonté, les désirs des nations, des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et comment est-ce que cela se présentait? Ben, Pierre, il va faire cette liste que nous voyons au verset 3. En marchant dans le dérèglement. C'est le cas aujourd'hui de notre monde. Les convoitises, c'est-à-dire ces désirs qui sont contraires à Dieu. L'ivrognerie, les orgies, les idolâtries criminelles. Ce sont des choses graves, je pense que nous pouvons être tous d'accord là-dessus. Et Pierre dit, vous étiez comme ça. Vous avez agi comme cela. Et comme Paul va le dire, on était de leur nombre, on allait avec eux, on participait. Et lorsque nous réfléchissons sur le fait que, avant de connaître Christ, si toutefois nous l'avons accepté comme notre sauveur personnel, nous étions dans cet état, loin de Dieu, incapables de nous sauver nous-mêmes, ennemis de Dieu. Pas simplement dans l'indifférence, mais littéralement ennemi de Dieu. Et que dans cet état-là, Dieu nous offre le salut par Jésus-Christ. Il offre à quiconque veut croire. Et il sauve quiconque. Même si ces personnes auxquelles Pierre écrivait étaient dans cet état, aller vers le dérèglement, vers ses convoitises, s'enivrer, se laisser aller à toutes les passions humaines qu'ils pouvaient imaginer, Dieu les a sauvés. Quelle note d'espoir! Parce que dans notre monde aujourd'hui, il semble que ceux qui ne connaissent pas Dieu passent leur temps à inventer des moyens de s'éloigner de Dieu, et de satisfaire leurs propres désirs des plus ahurissantes des manières. Et ici, Pierre dit, Dieu vous a sauvé de ça. Et si Dieu a pu sauver ces personnes qui étaient dans cet état, aujourd'hui, Dieu sauve également. Mais encore une fois, il y a un avant et un après, ce qui fait que notre vie actuelle ne doit pas du tout être semblable à cette vie que nous avions avant. Pierre dit, c'est du passé. C'était une réalité dans le passé, ne nions pas la réalité de la chose. Mais maintenant, c'est du passé, laissons cela. Paul, il va l'exprimer quand il parle aux Philippiens, je laisse derrière moi toutes ces choses. Je cours en avant. Je cours vers le but. Et ici, il y a cette grande division avant et après. Mais ce n'est pas sans conséquence. Parce que avec une telle coupure, parce qu'on parle de vraie coupure ici, Pierre dit, bah, bien sûr, il y a des conséquences. Et ces conséquences, nous commençons à les voir au verset 4. Bien sûr, il trouve étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche. Lorsque nous sortons de notre ancienne vie, si encore une fois nous l'avons fait, si nous avons réellement accepté Christ comme notre sauveur, Il y a des choses qu'on ne fait plus. Il y a des endroits dans lesquels nous n'allons plus. Il y a des mots que nous n'employons plus. Il y a des personnes même, peut-être qu'on ne fréquente plus. Et parce que nous nous démarquons de cette manière, les gens ils vont commencer à se dire « Ah, il y a une différence. Ah, là, cette personne, dans le passé, on sortait. On allait prendre un verre ensemble. On allait discuter de telle ou telle chose. Mais maintenant, il ne le fait plus. » Et ils vont essayer, ces anciennes amies, ces anciennes connaissances, ces personnes de notre vie avant, vont essayer de nous ramener, vont mettre la pression. Et dans un premier temps, ils vont trouver étrange, ils vont se poser des questions. Mais plus cela va, et si nous continuons de garder nos principes, ils vont arriver à la fin de ce verset 4, où il passe de cet étonnement, un peu indifférence, peut-être comme ils étaient au début, pour arriver à calomnier. Et c'est assez intéressant, puisque je regardais ce verset, puisque je me dis, calomnier, ok, dire du mal de quelqu'un et tout, mais finalement, saviez-vous que le mot que Pierre emploie, c'est littéralement le mot blasphème. Il blasphème. Et à ce moment-là, ça change tout. Pourquoi ? Parce que le blasphème, il est envers qui ? Envers moi ? Non, envers Dieu. Et ce que Pierre essaie de faire comprendre ici à ces chrétiens, c'est que nos anciennes connaissances, nos anciennes amies, des personnes qui ne comprennent pas le changement qui a eu lieu dans notre vie, qui cherche par tous les moyens de nous faire revenir en arrière, d'essayer de nous attirer vers ce que nous avons délaissé, finalement, ces personnes s'en prennent à Dieu. Bien sûr, ils s'en prennent à nous parce qu'eux, ils nous voient, mais au final, ils sont en train de s'en prendre à Dieu. Et ceci nous aide. Pourquoi ? Parce que si nous sommes attaqués, si nous affichons notre foi et nous sommes critiqués, on se moque de nous, on nous abaisse, on nous empêche d'avancer dans l'entreprise ou dans tel ou tel domaine, nous pouvons tomber dans ce piège de croire que c'est personnel, que ces attaques sont vraiment contre nous, parce que nous les subissons. Mais lorsque nous gardons l'esprit que finalement ces choses, ce n'est pas contre nous, non, c'est contre Dieu, cela nous aide à les accepter. Personne n'aime le rejet. D'être rejeté, d'être écarté, de dire « Ah, tout le monde fait ceci, mais toi, tu restes dans ton coin, toi, t'es là-bas. » On écarte. On laisse de côté, on n'aime pas cela. Nous voulons être acceptés, nous voulons avoir ce sentiment de faire partie d'un groupe. Et Pierre dit, bien sûr, aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu, mais il y a toujours cette tentation de revenir dans notre ancienne vie. Satan voudrait nous y attirer, nos anciennes connaissances voudraient nous attirer également, vont essayer de tout faire pour nous ramener. Et lorsque nous comprenons qu'à ce moment-là, on est en train de s'en prendre à Dieu et non pas à nous, nous pouvons supporter. Oui, qu'on parle mal de nous, ça peut arriver. J'ose même dire « ça va arriver ». Lorsque nous sommes pour la vérité, lorsque nous sommes pour Dieu, ça va arriver. Les gens seront dérangés. Ils ne voudront pas continuer avec nous si eux, ils ne sont pas pour la vérité, pour les choses de Dieu. Et Pierre dit, souvenez-vous, ce n'est pas vous. Non, c'est Dieu. Ne prenons pas ces attaques de façon personnelle. Oui, parfois ça va blesser, mais finalement, on se souvient que c'est Dieu qui est la vraie cible. Mais en plus de cela, verset 5 nous apprend que ici, dans cette vie, Dieu ne reste pas indifférent à ce qui arrive sur la terre. Que dans cette vie, Dieu voit ce qui se fait, et que un jour, les hommes auront à répondre devant Dieu. Regardez le verset 5. Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Ce que on nous fait aujourd'hui ne passe pas inaperçu de Dieu. Si on vous fait du mal pour votre foi, si on vous critique, si on vous abaisse, si on vous met à l'écart, cela ne passe pas inaperçu de Dieu. Et ceux qui font ces choses, ben, Dieu les note. Et un jour, ces personnes auront à répondre pour cela. Dieu n'est pas un Dieu injuste. Dieu est un Dieu juste. Et dans le travail, alors que nous fréquentons des collègues de travail inconvertis, alors que nous sommes dans ce monde qui est totalement contre Dieu, nous risquons d'être découragés, de ne pas pouvoir avancer, de ne peut-être pas avoir un plus grand impact. Nous pouvons penser que tout est contre nous et nous aurons la tentation peut-être de baisser les bras et à ce moment-là de penser, de nous souvenir qu'un jour, tous ceux qui nous font du mal, tous ceux qui sont contre nous, auront à rendre des comptes à Dieu. Non pas des comptes à moi, non pas des comptes à vous. Non. Des comptes à Dieu. Et Dieu n'oublie pas, contrairement à nous. Nous oublions, n'est-ce pas? Nous laissons les choses de côté, mais Dieu, lui, il n'oublie rien. Il est parfaitement juste. Et un jour, tous comparaîtront devant lui. Pour ceux qui sont là le dimanche matin, en première partie, ben, depuis à peu près un an maintenant, nous examinons la chronologie de la fin des temps. Et ce qui arrive tout à la fin, c'est le jugement. Et nous serons tous devant Dieu. Des livres seront ouverts. Et ceux qui n'ont pas été trouvés dans les livres de vie de l'agneau seront jugés sur la base de leurs œuvres. Dieu va rappeler tout ce que les hommes ont fait. Ces personnes qui nous font du mal, qui nous empêchent, qui se moquent de nous, qui nous critiquent, un jour ils rendront compte. Et ça devrait nous encourager. Non pas qu'on aime être critiqué, encore une fois, personne n'aime ça. Non pas qu'on aime être mis à l'écart, non pas qu'on aime souffrir, non. Mais lorsque nous souffrons pour Dieu, Dieu, il en tient compte. Et ceux qui nous font du mal vont devoir s'expliquer devant Dieu un jour. Et je ne sais pas vous, mais moi, je ne voudrais pas être à leur place. Pour pouvoir supporter la méchanceté de ce monde, l'injustice. Ici, Pierre dit, il faut se souvenir que c'est finalement contre Dieu que ces choses se font. Et c'est aussi qu'un jour, ces personnes auront à rendre des comptes à Dieu. Mais au verset 6, il y a quelque chose qui va peut-être choquer, peut intriguer. Puisque Pierre, il va dire, dans ce verset 6, l'évangile, donc la bonne nouvelle, fut aussi annoncé aux morts. Quoi? Ah bon? Oui, vous l'avez bien vu, si vous avez la même traduction. L'évangile fut aussi annoncé aux morts. Et je croyais que l'évangile, c'était pour les personnes vivantes. En effet, ça l'est. Alors Pierre s'explique dans la suite de ce verset, « Afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que une fois qu'on est mort, on a quand même l'évangile qui nous est prêché et on a peut-être une dernière chance puisqu'on comprend finalement que tout ce que la Bible explique est vrai et on a une dernière, une ultime chance d'être sauvé? Non. Et soyez rassurés, ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Non, ce que Pierre est en train d'expliquer ici, c'est que des personnes qu'il connaissait, des personnes auxquelles lui-même il avait annoncé l'évangile, sont maintenant mortes. Quand il dit « l'évangile fut aussi annoncé aux morts », il parle de personnes qui sont décédées. Depuis sa première annonce de l'évangile, on peut le situer à la Pentecôte, peut-être un peu avant, et lorsqu'il va rédiger cette lettre. Quand il parle de mort ici, il n'est pas en train de dire que des personnes, une fois mortes, entendent l'évangile. Mais il dit ces personnes ont entendu l'évangile et ensuite sont mortes. Et il confirme cela dans la suite de ce verset, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, donc ils ont entendu alors qu'ils étaient vivants cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, et parce qu'ils l'ont entendu, et parce qu'ils ont cru, c'est ce qui est sous-entendu dans ce verset. Avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Alors qu'ils étaient vivants, ils ont accepté le salut en Jésus-Christ. Et c'est grâce à cela que maintenant, morts physiquement, ils vivent spirituellement. Ces personnes auxquelles Pierre avait annoncé l'évangile, lui et puis bien sûr beaucoup d'autres. Alors ce verset 6 nous montre que Dieu travaille dans le cœur de tous. Que Dieu se soucie à ce que des personnes viennent à la repentance. Bien sûr, Dieu s'occupe de ses enfants. Ils lui appartiennent, il prend un soin particulier pour ses enfants, comme tout parent. Avec des enfants, on aime tous les enfants, mais on va s'occuper particulièrement, spécialement de ses propres enfants. Dieu fait pareil. Mais cela ne veut pas dire qu'il est indifférent à ceux qui ne lui appartiennent pas encore. Non, ici, Pierre montre que cet évangile est prêché. Cet évangile, cette bonne nouvelle, elle est annoncée même envers ces personnes qui cherchent à nous faire fausse route, qui cherchent à nous critiquer, à nous faire du mal, à nous persécuter, à nous faire souffrir. Cet évangile est et doit être annoncé même à ces personnes. Parce qu'il y a toujours de l'espoir. Si Dieu nous a sauvés alors que nous étions dans notre péché, Dieu peut également sauver les autres dans leur péché. Et bien sûr, cela se passe par Dieu, à la fin de verset 6, afin qu'ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Donc Pierre ici montre que c'est l'Évangile qui change tout. Nous pouvons avoir les meilleures méthodes, le meilleur comportement, c'est l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ qui change tout. Et c'est ça qui fait passer de la mort spirituelle à la mort, à la vie spirituelle, la vie éternelle. Et puis, après avoir dit ceci, après avoir finalement encouragé ces chrétiens en disant « Vous subissez cette persécution, vous avez mal ». Ça se passe mal pour vous. Je comprends, je compatis, mais tenez bon. Parce que finalement, c'est Dieu qui est la vraie cible. Ce n'est pas vous. Parce qu'un jour, ces personnes rendront compte devant Dieu. Parce que l'évangile est la chose qui change le cœur des personnes. Après avoir dit tout cela, verset 7, Pierre arrive au commandement dans ce passage, parce qu'il y a un ordre ici. Il annonce quelque chose qui peut nous sembler tellement évident. La fin de toute chose est proche. Et je ne sais pas vous, mais je deviens de plus en plus convaincu de cela, surtout quand on entend des dirigeants des différents pays se parler, s'insulter par moments. des agressions, l'incertitude, la tumulte. Et on dit la fin de toute chose est proche. Oui, c'est vrai. C'était vrai à l'époque de Pierre, c'est vrai à notre époque. Et à cause de cela, soyez donc sages et sobres. Bien des reprises, on m'a dit « Robert, sois sage ». Ma réponse est toujours « Je suis toujours sage, moi ». Ce qui est malheureusement pas vrai. Hein? J'essaie d'être sage. Mais sage dans quel sens ici? Puisque la langue française, pour toutes ses subtilités, ici nous présente un petit problème. Parce que sage, bien se comporter, ou sage, c'est-à-dire sagesse. Être sage. Et finalement, lorsqu'on examine le mot, on se rend compte que c'est sage dans le comportement. Savoir bien se comporter. Et puis, sobre, c'est-à-dire réfléchi. Ne pas s'emporter, ne pas suivre à tout coup de vent chaque chose qui est annoncée, mais de façon posée, réfléchie, examinée, toute chose. Et c'est ça l'ordre, d'être sage et sobre, être réfléchi, être calme. Et c'est un commandement pour toute personne qui connaît Dieu. Dans ce monde rempli d'incertitudes, dans ce monde qui est prêt à s'accrocher à toute nouvelle information, tout nouvel enseignement, les enfants de Dieu, si nous le sommes, nous devons être connus pour être des gens posés, réfléchis, sages, sobres. Mais ce n'est pas une fin en soi, puisque Pierre dit ceci dans un but bien spécifique. C'est la fin de verset 7. Pour vaquer à la prière. Pour être capable de prier. Et je ne sais pas si vous avez déjà fait cette expérience, mais si vous essayez de prier, et puis vous avez l'esprit dans tous les sens, vous pensez à ceci, vous pensez à là, à ça, pensez à quelque chose qu'on vous a dit la veille, ou même le matin, vous réfléchissez à ce que vous devez faire cet après-midi, ou demain, ou le lendemain, vous pensez à ce que vous n'avez pas fait, et puis votre esprit part dans mille et une directions. Ceci m'est déjà arrivé et m'arrive souvent, je ne vous le cache pas. Si nous sommes honnêtes, je pense que cela nous arrive tous. Et lorsque nous prenons du temps pour prier, si toutefois nous le faisons, et je prie que oui, on le fait. Mais lorsque nous prenons du temps pour prier, quelle est notre attitude? Je fais ma petite prière de 5 minutes et puis je passe à la chose suivante. Ou est-ce que c'est plutôt parce que je vois la gravité de la situation de notre monde? Parce que je sais que la fin est proche. Parce que je sais qu'un jour, Jésus reviendra. Parce que je sais que j'appartiens à Dieu. Parce que je sais que Dieu contrôle toutes choses. Je prends du temps de façon posée, réfléchie, de me mettre en silence devant Dieu pour le prier. Est-ce que je fais ça? Lorsque nous nous mettons dans le silence devant Dieu, comment est notre esprit? Est-ce que c'est le calme qui le caractérise? Ou plutôt le chaos? Est-ce que nous réfléchissons bien à ce que nous disons dans notre prière? Est-ce que notre prière est biblique? Parce que parfois, on dit des choses parce qu'on les a toujours dit et on se rend compte en réfléchissant que peut-être ce n'est pas tout à fait biblique. Est-ce que nos prières sont purement des répétitions de paroles alignées, sans trop penser? Est-ce que nos prières sont tout simplement ce qu'on pense que les autres veulent entendre? Est-ce que nos prières sont des mots appris de notre jeunesse ou d'autres personnes? Ce ne sont pas des prières sages et sobres. Et ici, Pierre dit, face à ce monde complètement en chaos, qui ne sait plus où se tourner, qui s'en prend aux chrétiens, aux enfants de Dieu, pour pouvoir faire face à ceci, aux difficultés de la vie, à la pression, à l'incompréhension, à l'incertitude, pour faire face à ce qui pourrait même surgir en nous. Pierre dit, il faut revenir à la prière. Mais notre prière sera totalement impuissante, sans valeur, si elle n'est pas faite dans un esprit qui est posé et réfléchi. Satan voudrait que notre prière, que notre esprit, avant de prier, soit dans toutes les directions, qu'on pense à tout en même temps, et qu'on soit bloqué avec cela, en disant, eh ben, j'ai toutes ces choses à faire, ben, je vais prendre juste quelques minutes pour prier, mais j'ai toutes ces choses dont je dois m'occuper. Ma famille, mon travail, ma maison, ma voiture, vous mettez tout ce que vous voulez. Alors je suis tellement occupé que finalement, je fais une petite place pour la prière parce que quelque part, il faut le faire. Mais je n'y accorde pas beaucoup d'importance. Et quand je le fais, finalement je fais ma prière, mais je suis toujours l'esprit ailleurs. Non. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons être sages, sobres, c'est-à-dire posés, réfléchis, pour être capables de prier, de nous entretenir avec Dieu. La prière, elle produit de l'effet. La prière n'est pas un exercice futile, n'est pas une perte de temps. Au contraire, c'est le meilleur usage de notre temps que nous puissions faire. Et lorsque nous sommes seuls chez nous, Matthieu chapitre 6, entre dans ta chambre, ferme la porte, prie à ton Père qui est dans le lieu secret, et le Père qui est dans le lieu secret te le rendra. C'est Jésus qui le dit. Que nous soyons seuls, que nous soyons ensemble comme nous le sommes le mardi soir. Et entre parenthèses, je suis un peu attristé de voir qu'on est si peu à une réunion si importante. Le mardi soir, oui, on étudie la parole, mais on passe du temps dans la prière. Il y a des requêtes qui sont partagées dont vous ne serez peut-être pas au courant si vous n'êtes pas là. Nous ne pourrons pas prier ensemble si nous ne sommes pas ensemble. Mais lorsque nous sommes ensemble, nous ne prions pas tous en même temps, sinon ce serait assez perturbant. Mais lorsque nous écoutons la prière de quelqu'un d'autre, comment sommes-nous? Et là aussi, j'avoue, cela m'arrive, alors que j'écoute quelqu'un prier, mon esprit part ailleurs. Je commence à réfléchir, ah d'accord, qu'est-ce qu'on va faire après? Et à ce moment-là, je dois demander à Dieu de m'aider à ramener mon esprit dans le moment. Et d'être attentif à ce que cette personne dit, parce que cette personne est en train de s'adresser à Dieu, quand même. Et Pierre dit dans ce passage, oui, le monde est contre nous. Ça ne devrait pas nous surprendre. On aura des difficultés. On aura la pression. Les choses vont aller mal. Je ne veux pas vous décourager, mais c'est la réalité. Les choses vont aller mal. Et pour pouvoir faire face à cela, qu'est-ce que nous avons ? Comment pouvons-nous, pauvres êtres humains que nous sommes, pouvons-nous faire face à cela? C'est parce que nous avons un Dieu immense, un grand Dieu capable de tout, qui dirige toutes choses, qui ne nous abandonne pas, qui est en train de noter tout ce qui se passe, envers lequel tous auront à rendre compte un jour. Nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Jésus-Christ. Personne n'y échappera. Et parce que nous avons l'évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, nous pouvons tenir ferme. Et le moyen par excellence pour le faire, c'est la prière. Paul, dans l'épître aux Éphésiens, bien sûr, il va rejoindre ce que Pierre, il dit ici. En parlant de l'armure chrétienne, Paul va citer un ensemble d'éléments allant de la tête jusqu'aux pieds. Il va parler de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mais pourquoi tout cela? C'est justement pour pouvoir prier. Et je me pose la question, dans ma vie, si je vois peu de progrès, si dans notre église, nous voyons peu de progrès, si dans le monde chrétien, on va élargir un peu, nous voyons peu de progrès, si nous voyons peu de distinctions avec le monde, si nous voyons peu de victoires, est-il possible que c'est parce que nous avons délaissé la prière au profit de méthodes et de programmes humains, en pensant que étant occupé à droite et à gauche, avec des choses peut-être légitimes et bonnes, est plus important que la prière? Je vous lance le défi cette semaine. Il y a 7 jours dans la semaine. À partir de demain, comptabilisez le temps que vous passez dans la prière. Vous avez peut-être un petit cahier, même juste sur une feuille. Essayez pendant la semaine. Vous marquez lundi jusqu'à dimanche prochain. Comptabilisez le temps que vous passez dans la prière. Non pas le temps que vous souhaitez passer dans la prière, mais le temps réellement que vous passez dans la prière. Et arrivé à la fin de la semaine, dimanche prochain, regardez cette feuille. Et rendez-vous compte du temps que vous passez dans la prière. Et ensuite, comparez ce temps avec vos autres activités. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir dire si la prière est importante dans votre vie ou pas. Nous pouvons dire tout ce que nous voulons. Si nous passons peu de temps dans la prière, c'est parce que la prière n'est pas importante. Aucune excuse ne tiendra devant Dieu. Si Dieu doit nous demander, mon enfant, pourquoi ne pries-tu pas autant? Pourquoi ne pries-tu pas dans telle ou telle circonstance? L'excuse « je n'ai pas le temps » ne tiendra pas. L'excuse « je ne sais pas prier » ne tiendra pas parce que nous avons des exemples dans la Bible. C'est une simple conversation avec Dieu. On s'exprime librement devant lui. L'excuse « j'aurais voulu, mais j'ai été empêché par... » Pierre dit ici « la fin de toute chose est proche ». C'était vrai à son époque, c'est encore plus vrai aujourd'hui. On est plus proche que jamais du retour du Seigneur. Il pourrait revenir aujourd'hui. Et à ce moment-là, comment nous trouvera-t-il? Déjà, est-ce que nous lui appartenons? Est-ce que nous avons accepté Christ comme notre Sauveur? Est-ce que nous avons accepté cette bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ? Et si nous l'avons fait, est-ce que nous sommes des personnes de prière, mais une prière posée, réfléchie? Est-ce que notre vie est connue pour être dans le calme, posée, être réfléchie? Ou est-ce que nous courons à droite et à gauche dans toutes les directions, en train de faire mille et une choses, mais en laissant la chose principale de côté? Lorsque Jésus était chez Marthe et Marie, vous connaissez cette histoire peut-être, l'une d'entre elles, Marthe, occupée à droite et à gauche à préparer le repas, à bien s'occuper de ses invités, rien de mal à ça. Marie au pied de Jésus, Marthe qui s'énerve contre sa sœur, mais elle ne m'aide pas, elle me laisse faire tout le travail. Et lorsqu'elle le relève à Jésus, comme si Jésus ne le savait pas, qu'est-ce que Jésus lui dit? Jésus dit à Marthe, tu t'occupes de beaucoup de choses. Marie a choisi cette bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Avons-nous choisi la bonne part? Allons-nous cette semaine choisir la prière? Comme je l'ai dit, essayez de comptabiliser le temps que vous passez dans la prière. C'est peut-être un peu moins que vous pensez. Nous avons tous de bonnes intentions, n'est-ce pas? Oui, je vais faire ceci ou cela, et puis on arrive à la fin de la semaine et on se dit, eh bien, finalement, je n'ai rien fait du tout. Mais mettre sur papier, combien de temps est-ce que j'ai passé dans la prière? Et pendant ce temps de prière, est-ce que j'étais vraiment concentré là-dessus ou est-ce que j'ai laissé mon esprit partir ailleurs? C'est une discipline. C'est quelque chose qui ne se fait pas tout seul. Il faut y travailler, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons. Tout comme Dieu n'a pas laissé ces chrétiens du premier siècle tout seuls, il était avec eux. Dans leur persécution, dans leur souffrance, jusqu'au bout, Dieu était avec eux. Et Dieu est avec nous aujourd'hui. Il ne nous laisse pas en disant « faites de votre mieux » et on verra par la suite. « Aide-toi, le ciel t'aidera !» C'est faux ! Non ! Dieu nous fortifie par sa puissance. Et ça va se voir à travers la prière. Une prière envers Dieu pour demander son aide. Et c'est ce que nous allons faire. On va passer quelques instants dans le silence, prière interne, pour demander l'aide de Dieu devant cette semaine qui est devant nous. Nous aurons besoin de son aide, alors demandons-la dans la prière silencieuse. Oui, Seigneur, nous te remercions que tu es à notre écoute. Tu n'es pas distant, mais tu as l'oreille attentive à chaque fois que nous élevons notre voix vers toi. Nous reconnaissons notre incapacité par nous-mêmes d'accomplir cette parole de ta parole. Nous sommes faibles en nous-mêmes. Nous demandons ton aide pour pouvoir mettre ceci en pratique. Que tu nous fortifies par ta grâce. Que tu nous donnes d'agir avec réflexion, avec sagesse, avec calme, aujourd'hui et pendant toute cette semaine devant chaque situation. Que tu nous aides à prendre du temps dans la prière, dans le calme avec toi. Qu'ainsi, Seigneur, tu puisses nous fortifier, que notre vie puisse briller, qu'il y ait une réelle différence par rapport à ceux qui nous entourent, qui ne te connaissent pas, et que ainsi nous ayons l'occasion de parler de cette bonne nouvelle autour de nous. Nous te louons d'avance pour ce que tu feras, parce que tu es un Dieu puissant, tu es un Dieu rempli d'amour, et que toute la gloire te revienne lorsque tu le feras. C'est en ton nom que nous prions. Amen.